La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Eh bien, rebonjour et bon après-midi à chacun. Nous allons, comme vous le voyez affiché, considérer les caractéristiques du reste. Et la raison pour laquelle cela est inclus dans, et tout du moins parmi les thèmes de ce committee qui porte le message du quatrième ange, est que nous avons vu eh bien, que le reste ne pouvait pas être Babylone, le véritable ne pouvait pas être Babylone. Et de manière à bien comprendre cela, car lorsque nous parlons de Babylone, cela inclut une église ou des églises de système religieux apostat. De manière à bien comprendre cela et à faire la différence, nous devons aussi considérer les caractéristiques du reste. Et cette présentation sera, je dirais, complémentaire de celle que nous avons vue hier après-midi concernant l'Église du Christ. Vous avez vu, c'est hier après-midi, à la même heure, nous étions en train de considérer l'Église du Christ. La présentation de cette heure sera complémentaire à celle de hier après-midi. Si je vous pose la question suivante, quelles sont les caractéristiques du reste? Êtes-vous en mesure d'y répondre? Alors, bibliquement parlant, effectivement, oui. La réponse toute simple qui arrive, c'est qu'il garde les commandements de Dieu ainsi que le témoignage de Jésus, d'accord? Car le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu ainsi que le témoignage et qui ont le témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Et nous avons un verset complémentaire qui se trouve en Apocalypse 14, verset 12. Là, on nous parle de la patience des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, les caractéristiques du reste sont l'observation des commandements de Dieu ainsi que du témoignage de la foi de Jésus-Christ, mes amis. D'accord? Et la période de temps qui est concernée par la présentation de ce peuple, eh bien, c'est à la fin des 1260 années ou un temps des temps et la moitié d'un temps qui nous est parlé dans la Bible. C'est une fois que cette période-là est présentée que nous voyons le reste apparaître. Donc, de manière chronologique, il est vrai que dans la Bible, il est fait mention de reste à différentes périodes de temps. Mais là, le reste dont on nous parle ici en Apocalypse 14, 12, 17 apparaît une fois que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Pas la fin des temps, dans le temps de la fin qui commence en 1798. Et nous reconnaissons que ce reste a vu le jour avec le mouvement adventiste, conformément aux différentes prophéties de temps qui amènent à cette période de temps. Et nous croyons également que le témoignage de Jésus, que l'esprit de prophétie, a été manifesté en ce dernier jour dans le ministère de Sœur Ellen G. White. Et j'aimerais que nous considérions une déclaration qu'elle a faite dans Message choisi, volume 1, à la page 238, paragraphe 3, en 1905. Et cette déclaration a trait à l'oméga. Elle a trait à l'oméga, à l'apostasie qui devait avoir lieu. Et elle déclara que l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du septième jour. Okay? Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suit vrai? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait tout du moins un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qu'il a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Remarquons ce qu'il est dit, notamment lors de la première partie, dans la première partie de ce paragraphe. Elle parle des adventistes du septième jour, d'accord, en 1905. Et elle dit que l'ennemi de nos âmes a tâché de faire croire qu'une réforme devait avoir lieu, laquelle consisterait à abandonner, à renoncer, ou tout du moins, aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi. Rappelez-vous ce que nous avons vu avec le pasteur Allen ce matin. Non pas les piliers de ma foi, dit-elle, les piliers de notre foi. D'accord? Et à la suite de ça, elle dit que les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Ok? Précédemment, elle parle de notre foi. Et juste avant, elle parle des adventistes du sixième jour. Ok? Et remarquez comment elle va continuer. D'accord? Elle dit, notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Donc ici, il y a une substitution qui peut être effectuée en fait. Adventiste du septième jour, d'accord, Église du reste, et laquelle a des piliers pour sa foi, d'accord, des principes de vérité. Ok, donc notez ici qu'elle associe Église du reste à Église adventiste du septième jour, d'accord, ok. Et cela a du sens, notamment quand on, à la lumière de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le pasteur dans la présentation précédente, Ellen White et le reste. Et notez qu'elle dit, une fois que nous avons vu le rapport qu'il y a entre Église adventiste du septième jour et Église du reste, que ces deux termes pouvaient être substitués à cette époque, notez comment, eh bien, ce qu'elle va dire également. Elle va parler des piliers de notre foi. Ensuite, elle va parler des principes de vérité. Et après, elle va dire les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années. OK? Piliers de notre foi, principes de vérité, principes fondamentaux. D'accord? Et là, elle écrit ça en 1905. OK? Considérons la page 242 de ce même ouvrage. Toujours en 1905 qu'elle écrivit cela. Elle dit, nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Et notez à nouveau qu'elle va employer cette même période de temps. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés à qui? Aux adventistes du septième jour. Donc le « nous » sont les adventistes du septième jour, pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par point. Remarquez, des vérités qui ont été obtenues comment?
Point par point.
OK? Et de quelle manière? Par l'étude et la prière, et confirmée par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus, et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi au quoi? Aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Nous sommes le peuple qui, durant les 50 dernières années, à savoir de 1855 à 1905, a obtenu point par point des vérités. Et Dieu nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi à ces vérités qu'elle qualifie de principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. De quels principes fondamentaux parle-t-elle en 1905? La dernière publication de principes fondamentaux, mes amis, qui a vu le jour avant la mort d'Ellen White et qui a été valable jusqu'à 15 ans après la mort d'Ellen White, sont les principes fondamentaux des Adventistes du septième jour de 1889. Et donc, ces principes fondamentaux, eh bien, nous fournissent une esquisse large des caractéristiques de l'Église Adventiste du septième jour qui est l'Église du reste. Et donc, nous allons pouvoir, à travers cela, eh bien, voir quelles sont les caractéristiques du reste, en réalité. D'accord? Considérons quelques-uns de ces points. Et nous allons essentiellement faire cela. Et alors que nous allons considérer ces points durant cette heure, je vous demande de bien prêter attention. Surtout si vous êtes un adventiste du septième jour. Car nous allons considérer là les principes fondamentaux de l'Église du reste, mes amis, d'après Ellen White. Et principes fondamentaux qu'elle a dit qui sont incontestables, ok? Que Dieu a révélés point par point, qu'il a donné à son peuple point par point. Le premier de ces principes est qu'il n'y a un seul Dieu. Un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7. Est-ce que nous avons un problème ici, aujourd'hui en 2018? L'Église du reste, mes amis, croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et implicitement ici, ce seul Dieu est présenté comme étant le Père. Puisque comme nous allons le voir, le point numéro 2 va porter sur son Fils. Et notez ici quelque chose d'intéressant. C'est que ce seul Dieu, il est partout présent, comment? Par son représentant, le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous prenez les croyances fondamentales de la dénomination des Adventistes du septième jour d'aujourd'hui, et non pas de 1989, mais d'aujourd'hui, on ne vous dit plus que Dieu est présent par son représentant, le Saint-Esprit, mais on vous dit que Dieu est omniprésent.
Oui, c'est
vrai. Mais mes amis, ce n'est pas correct. On ne peut pas dire et s'arrêter à là. Et penser qu'on peut être correct dans son qu'on dit. Non, Dieu n'est pas omniprésent, mes amis. Ça, c'est du panthéisme. Dieu est un être en deux dimensions. Il a une forme. Il est présent dans un lieu bien précis, dans le ciel. Et à quel endroit dans le ciel? Dans le sanctuaire. Et à l'heure actuelle, à quel endroit dans le sanctuaire? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Dieu a un réel endroit d'habitation. Mais il est omniprésent. Mais comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Et aujourd'hui, dans les croyances fondamentales de la dénomination actuelle, cette nuance, mes amis, qui signifie toute la différence. Et rappelez-vous qu'on avait fait cette nuance avec le pasteur David Sims l'an passé. On l'avait vu, pour ceux qui s'en rappellent. Pasteur David Sims avait passer une présentation à clarifier ça. Eh bien, cette nuance a disparu dans les croyances fondamentales actuelles. Et c'est parce que cette nuance a disparu que dans l'adventisme, à l'heure actuelle, on ne croit plus dans le sanctuaire. Puisque, comme on l'avait vu avec le pasteur Alan Stump, la personnalité de Dieu et de Christ est liée à la vérité du sanctuaire. Donc si vous avez un Dieu qui en fait n'a pas de présence concrète dans un lieu précis de l'univers, eh bien, pourquoi y aurait-il besoin de sanctuaire? Puisque Dieu serait présent partout. C'est très important, mes amis. Et c'est très important que cela soit le premier point de principes fondamentaux. Parce que ça va poser le fondement pour tout ce qui va suivre. Rappelez-vous, la connaissance de Dieu, mes amis, c'est le fondement de toute vraie éducation. C'est le fondement de toute théologie. Et Rome le reconnaît. Et c'est pour cela que Rome dit que son Dieu, qui est en réalité non pas le Père, son seul vrai Dieu, mais pour eux c'est la Trinité, est le fondement de toutes ces autres doctrines. Pour sa foi, mais elle veut aussi que ce soit pour la chrétienté. Oh, l'évangélisation du peuple, mes amis, faisons attention. Le deuxième point de ces principes fondamentaux, il nous a dit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent, qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue, qu'il demeura parmi les hommes, plein de grâce et de vérité, vécut notre exemple, mourut notre sacrifice, fut ressuscité pour notre justification, monta aux cieux pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste où, à travers les mérites de son sang versé, il assure le pardon et la rémission des péchés de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Aussi, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, 19, et emportés du sanctuaire tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Et on donne des références. Revenons un instant sur cela. Jésus-Christ est ici présenté comme la deuxième personne de la Trinité. C'est cela ? Non, non, comme le Fils du Père éternel. OK ? Ça, c'est un premier point à noter. Et remarquez la deuxième chose. C'est qu'il prit sur lui la nature de la semence. De qui ?
D'Abraham.
Est-ce qu'ici, on dit, oh, il a pris la nature de l'homme avant le péché ? Il a pris la nature d'Adam avant le péché. C'est pas ce qu'on dit ici ? Ici, c'est pas ce qu'on dit, là, en 89. Mais mes amis, lorsque vous étudiez la théologie adventiste moderne, on vous dit qu'en fait, Christ aujourd'hui, il avait sur terre la nature d'Adam avant le péché.
Oh.
Mais c'est pas ce que dit l'esprit de prophétie non plus, mes amis. C'est pas ce que disent les principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Et qui sont, eh bien, ce que Dieu a donné à l'Église du reste. On nous dit aussi que Christ fut ressuscité. Qu'est-ce qui a ressuscité le Christ ? Le Père. Il y a 30 textes bibliques qui nous le disent, n'est-ce pas ?
Oui.
Aujourd'hui, quand vous croyez en la Trinité, eh bien, vous êtes automatiquement obligé de croire que Christ s'est ressuscité lui-même, mes amis.
Oui.
C'est pas ça. C'est pas ça. Et après, on nous dit qu'à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera quoi ? La grande expiation. Wow. Donc, il y a une expiation, en fait, à la fin de son œuvre en tant que prêtre. D'accord ? Il y a une expiation. Et remarquez le petit 1 qu'il y a après, etc., juste en haut de l'image. OK ? Ce petit 1-là figure dans le document original. D'ailleurs, au passage, tous les points qui sont présents ici sont traduits et sont accessibles depuis le site leres.org/croyance. Et à la fin de cette page, on met le lien de la page originale du site d'Ellen White sous lequel ces principes ont été traduits. Ce petit 1 est une note qui explique ce point numéro 2. Et nous allons lire ensemble cette note, d'accord ? Elle est assez longue, mais on va prendre le temps de la lire parce que c'est important de comprendre ça. Parce que voyez-vous, avant de la lire, aujourd'hui, dans l'adventisme, comme on l'a vu hier matin, on ne croit plus dans l'expiation finale. On ne croit pas que Jésus-Christ, depuis 1844, fait l'expiation finale. Tandis qu'à cette époque-là, on le croyait. Alors, lisons cette note. Certaines personnes inconsidérées nous accusent de rejeter entièrement l'expiation du Christ parce que nous sommes en désaccord avec l'opinion majoritairement acceptée selon laquelle l'expiation fut accomplie à la croix. Mais il n'en est rien. Nous ne sommes simplement pas d'accord concernant le temps où l'expiation doit être faite. Nous contestons l'opinion selon laquelle l'expiation fut réalisée à la croix parce qu'elle est totalement contraire au type, lequel place l'expiation à la fin du service annuel du sanctuaire et pas au commencement. Voir les textes de l'Écriture cités précédemment. Et parce que cela mène inévitablement à l'une des deux grandes erreurs. Ainsi, Christ porta les péchés du monde quand il était sur la croix. Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, c'est-à-dire porté, d'après la lecture marginale, le péché du monde. » Jean 1, 29. Pierre nous dit à quel moment il porta les péchés du monde. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Pierre 2, 24. Paul dit qu'il est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Par conséquent, ce que Christ fit sur la croix fut accompli sans distinction et sans réserve pour tout le monde. Et si cela fut l'expiation, alors les péchés de tout le monde auraient été expiés et tous seraient sauvés. Cela est l'universalisme en pleine floraison. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Par conséquent, les péchés de tous ne furent pas expiés à la croix. Et si l'œuvre du Christ ici-bas fut l'expiation, alors son œuvre fut partielle et non universelle, comme les textes cités précédemment l'affirment. Et il fit l'expiation seulement pour quelques favoris qui furent élus pour être sauvés et ignora tous les autres qui furent prédestinés à la damnation. Cela établirait la doctrine de l'élection et de la prédestination dans sa forme la plus forte, erreur également contraire aux Écritures et aussi répréhensible que la précédente. Nous évitons ainsi ces deux erreurs et sommes en harmonie avec le type mosaïque ainsi que toutes les déclarations des Écritures lorsque nous déclarons que ce que Christ fit sur la croix fut de pourvoir à un sacrifice divin pour le monde, suffisant pour sauver, et offrit à chacun de ceux qui l'acceptent, et l'offrit tout du moins à chacun de ceux qui l'acceptent, afin qu'ils agissent par les mérites de son offrande comme médiateur avec le Père jusqu'à la fin du temps, assurant ainsi la rémission des péchés pour tous ceux qui le cherchent dans ce sens, et que, au dernier service de sa prêtrise, il efface les péchés de tous ceux qui se sont repentis et ont été convertis. Acte 3, 19. L'expiation n'étant pas complétée avant que l'œuvre d'effacement des péchés soit accomplie. Ainsi, Christ fait l'expiation, non pas pour les péchés du monde, mais pour que tous soient sauvés. Non pas pour quelques favoris seulement, lesquels sont élus de toute l'éternité pour être sauvés, mais pour ceux qui, en tant qu'agents moralement libres, ont volontairement cherché auprès de lui le pardon du péché et la vie éternelle. Et tous ceux pour qui l'expiation est réalisée seront sauvés pour toujours dans son royaume. Cette vue ne diminue aucunement les mérites de l'offrande du Christ, ni la valeur et la gloire de son œuvre expiatoire pour les hommes. Alors que nous nous tenons dans cette direction, nous n'allons ni dans l'universalisme, ni dans l'élection, ainsi que la réprobation. Voilà une note qui clarifie le point de l'expiation, de la grande expiation, mes amis. Okay? Donc, l'expiation n'a pas pu être complétée à la croix, comme il le faisait comprendre. D'accord? Okay? Et pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre les présentations que j'ai déjà pu réaliser sur l'expiation finale, eh bien, il est vrai qu'à la croix, il y a eu une expiation. Mais lorsque vous lisez en Lévitique, on vous explique que c'est une expiation pour le pardon. Tandis que, eh bien, ça c'est Lévitique 4, mais en Lévitique 16, on vous explique qu'il y a une expiation pour la purification, en fait. OK? À la croix, en Lévitique 4, dans le parvis, l'expiation qui se faisait dans le parvis, c'était une expiation pour le pardon. Tandis qu'en Lévitique 16, l'expiation qui avait lieu lors du Yom Kippour était une expiation pour la purification. Donc, l'expiation ne peut pas s'arrêter à la croix. Okay? L'expiation est complétée lorsque Christ rentre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et ce, au moment où est à compter de 1844. Donc, ça continue en fait. Ça ne peut pas être à la croix. OK? Jusqu'ici, est-ce que nous comprenons qu'il y a une différence? Est-ce que nous percevons, nous voyons ce que croit en fait un véritable adventiste du septième jour, je dirais? Ce que croit, eh bien, quelqu'un qui fait partie de l'Église du reste? Parce que c'est cela, mes amis. Voilà les principes fondamentaux. Okay? Sommes-nous un membre de l'Église du reste, le véritable reste de Dieu? Sommes-nous eh bien, un véritable adventiste du septième jour. Lorsque nous considérons ces choses et que nous remarquons ce qui aujourd'hui est enseigné, je laisse la question en suspens et chacun de nous doit y répondre, pour pouvoir y répondre. Le point numéro 3, il est dit que les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu et contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elles constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. Êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce que vous savez que dans l'Église adventiste du septième jour, à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment d'accord avec ça? Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des pasteurs fraîchement sortis des écoles de théologie me dire, mais tu sais, il y a des passages dans le Pentateuque qui n'ont pas été inspirés par Dieu et que c'est Moïse qui a écrit cela. C'est ce qu'ils ont appris. Ils ont payé 10 000 euros l'année pour étudier à Collonges pendant 5 ans. Combien? 10 000 euros fois 5, ça fait combien? 50 000 euros. 50 000 euros pour devenir pasteur, pour pouvoir dire aux gens ça, pour pouvoir me dire, eh bien, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout n'a pas été inspiré par Dieu, en fait. Il y a un site que vous connaissez certainement, troisanges.com, et il y a une partie archéologie dans ce site, ok? Et je vous invite à regarder. Je ne me rappelle plus de quel numéro, mais il y a un moment, dans un épisode, où celui qui anime l'émission, avec un intervenant, il dit en fait que l'archéologie a montré que Jéricho, c'est une légende et tout, etc. Et donc nous savons que c'est une légende et tout, et tout, et tout. Pourtant, l'Écriture dit, « Ainsi parle l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse. » Mais bizarrement, du moment que vous payez 50 000 euros pour devenir pasteur, vous avez quand même apparemment un droit et une autorité pour dire que non, certaines choses ne sont pas inspirées de Dieu, en fait. Est-ce que cela peut être un pasteur de l'Église du reste qui peut dire ça, mes amis? Pas d'après ce que nous disent ces principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question, d'après ce que nous dit Ellen White. Et que ces Écritures constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le manuel d'Église dans la Bible. Et vous vous rappelez ce que Pasteur Allen nous a montré avec Martin Luther? Il a pris la bulle et il l'a mis au feu. Il faudrait faire la même chose pour ce livre, mes amis. La même chose pour ce livre. Parce que dans ce livre, on dit que seuls les pasteurs doivent baptiser. Alors que dans la Bible, nous avons un diacre consacré, Philippe, qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Les anciens aussi. En fait, dans la Bible, et ça, il faut le comprendre, il n'y a qu'une seule consécration, mes amis. Et après, c'est l'Esprit qui vous dirige dans votre ministère. Dans l'adventisme, on fait une consécration diacre, après une consécration ancien, et puis une consécration pasteur. Comme ça, toi, tu es diacre, tu ne changes pas, tu ne peux pas devenir ancien, et puis toi, tu es ancien, tu ne peux pas devenir pasteur, en fait. On cloisonne les choses. On fait plusieurs consécrations. Mais avez-vous déjà étudié la consécration, mes amis, pour vous rendre compte que cela ne fonctionne pas comme cela? Il n'y a qu'une seule consécration dans la Bible, mes amis, et c'est l'Esprit qui vous dirige dans votre ministère. Je pourrais vous donner encore des choses de la sorte pour vous montrer que ce livre devrait être pris et d'être mis au feu, mes amis. Au feu. Nos pionniers n'avaient pas de manuel d'église. Ils n'avaient pas de manuel d'église. C'est pour cela qu'ils ont écrit ça. Elle constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique. Bien évidemment, sous le point de vue personnel de la foi. Mais, mes amis, du point de vue de la pratique ecclésiale également. Nous avons tout. Nous avons l'exemple de Moïse, comment il dirigeait le peuple. et toute l'histoire inspirée, toute l'histoire sacrée en fait. Voilà ce que croit, mes amis, l'Église du reste. Voilà l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Elle croit que les Saintes Écritures, les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données par inspiration de Dieu. À 100%, mes amis. Il n'y a pas des passages qui sont retranchés, des choses comme ça. Non, pas dans l'Église du reste. Dans les églises de Babylone, oui. Mais pas dans l'Église du reste, mes amis. La véritable Église du reste. La véritable Église adventiste du septième jour, celle qui était l'Église du reste en 1889. Point numéro 7. Que l'histoire du monde, à partir des dates précises du passé, l'élévation et la chute des empires et la succession chronologique des événements menant à l'établissement du royaume éternel de Dieu, sont esquissés dans de nombreuses grandes chaînes prophétiques et que ces prophéties sont à présent toutes accomplies, excepté les scènes finales. D'accord? On nous parle ici de chaînes, de grandes chaînes, de nombreuses grandes chaînes prophétiques. OK? Et je ne l'ai pas mis, mais si vous prenez le temps de considérer tous ces principes fondamentaux, OK, car je n'ai sélectionné que des points qui manifestent pour nous un intérêt, étant donné qu'on voit et on va s'apercevoir que chaque point que je vais citer sont aujourd'hui, changés ou défiés, entre guillemets, attaqués. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un autre point où il parle de l'importance de la prophétie. Et là, on nous parle de nombreuses grandes chaînes prophétiques. Okay? Donc, lorsque vous vouliez devenir un adventiste du septième jour en 1989, lorsque vous vouliez intégrer l'Église du reste en 1889, vous deviez réaliser l'importance de la prophétie, mais aussi qu'il y avait de nombreuses grandes chaînes prophétiques, d'accord? En Daniel, en Apocalypse, et il y en a aussi qui sont en Matthieu 24, en 2 Thessaloniciens 2, etc. D'accord? Rien qu'avec ce terme-là, de nombreuses grandes chaînes prophétiques, nous pourrions vous présenter comment les pionniers comprenaient cela et comment ils voyaient ces chaînes prophétiques et comment ils les associaient et comment elles se complétaient aussi. Et la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les croyances fondamentales de la dénomination actuelle, cela a disparu. L'emphase n'est plus mise sur cela. L'emphase n'est plus mise. Alors que la parole prophétique, mes amis, est ce qui a placé l'adventisme là où il se trouve. Mais ces grandes chaînes prophétiques n'apparaissent plus. On n'en fait plus mention. C'est dommage. Point numéro 9. Que l'erreur des adventistes en 1844 concernait la nature de l'événement devant alors se produire, et non le temps. Qu'aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais que la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8, 14, se termina en 1844 et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Qu'est-ce que l'Église du reste, en 1889, croyait être la plus longue période prophétique de la Bible?
C'est sur le sanctuaire, la purification du sanctuaire.
Et quelle était cette plus longue période prophétique? Les 2300 jours ou 300 soirs et matins de Daniel 8, 14. Voilà ce que l'Église du reste, que Dieu a conduit point par point dans la vérité de 1855 à 1905. Dieu leur a donné des piliers de notre foi. Dieu leur a donné des vérités incontestables. Voilà ce qu'ils croyaient. Voilà ce qu'ils croyaient. Ils ne croyaient pas que les 2520 étaient la plus longue période prophétique. Car lorsque Dieu les a conduits point par point dans la vérité, ils ont rejeté les 2520 comme étant la plus longue période prophétique. Et ont réalisé que non, ce sont les 2300 soirs et matins. Mais aujourd'hui, il y a des mouvements prophétiques mondialement connus qui ont différentes antennes à travers divers pays et qui disent que non, non, ce sont les 2520, la plus longue période prophétique. Et certains vont jusqu'à dire que si vous n'acceptez pas ça, vous serez perdu. Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la chose, mes amis? Non, non. Cela est une caractéristique de l'Église du reste. Point numéro 10. Que le sanctuaire de la Nouvelle Alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel, et dont Paul parle à partir d'Hébreux 8, et duquel notre Seigneur, en tant que grand prêtre, est ministre. Que ce sanctuaire est l'antitype du tabernacle mosaïque, et que l'œuvre sacerdotale de notre Seigneur, qui y est liée, est l'antitype de l'œuvre des prêtres juifs de l'ancienne dispensation. Hébreux 8, 1 à 5, etc. Que cela, et non la terre, est le sanctuaire devant être purifié à la fin des 2300 jours. Et ce que l'on appelle sa purification est dans ce cas, tout comme dans le type, simplement l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint pour finir l'ensemble des services qui y sont liés en expiant et en enlevant du sanctuaire les péchés qui y avaient été transférés par le moyen du service accompli dans le premier appartement. Lévitique 16, Hébreux 9, 22 et 23. Et que cette œuvre dans l'antitype, commençant en 1844, consiste en fait à effacer les péchés des croyants, acte 3, 19, et occupe une durée courte et indéfinie, au terme de laquelle l'œuvre de miséricorde pour le monde prendra fin, alors le second avènement du Christ aura lieu. Qu'est-ce qui nous est dit ici? On nous parle du sanctuaire, type, antitype, Christ rentre dans le lieu très saint, d'accord, en 1844, et il fait l'expiation, d'accord, l'effacement des péchés. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans l'adventisme, il y a des gens qui ne croient pas dans le sanctuaire? Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que « Mais non, ça ne peut pas être possible! Comment le péché peut rentrer dans le ciel ?» Mais mes amis, le péché a pris naissance dans le ciel. Donc c'est normal que dans le ciel, on ait réglé ce problème. Et on efface cela. On efface cela. Et il y en a même qui disent que « Wow, 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 non !» Christ, sur terre, eh bien, son œuvre était représentée par le lieu saint. Et qu'une fois ressuscité et monté au ciel, il est monté directement dans le lieu très saint. Mes amis, ce n'est pas ce que Dieu a révélé à l'Église du reste, point par point. De manière incontestable. Je vous repose la question et je la laisserai en suspens, je n'attends pas de réponse, mais c'est pour que vous puissiez réfléchir à ça. Faites-vous partie de l'Église du reste? Êtes-vous un véritable adventiste du septième jour? Pensez-y, pensez-y. Point numéro 13. Qu'étant donné que l'homme de péché, la papauté a pensé changer les temps et la loi de Dieu, Daniel 7, 25, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le quatrième commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants juste avant la venue du Christ. Et on nous donne des versets. D'après l'Église du reste, la véritable Église adventiste du septième jour, en 1989, que Dieu a conduit point par point dans la vérité. Qui était l'homme de péché? La papauté. Vous avez peur de le dire? Eux, ils n'avaient pas peur de le dire. Mais bizarrement, aujourd'hui, l'Église adventiste du septième jour moderne a peur de le dire. Si bien que cela a disparu de leurs croyances fondamentales. Vous allez prendre un livre, ce que croient les adventistes, que ce soit la version des 27 ou des 28, cela n'apparaît plus, mes amis. Cela n'apparaît plus. On ne dit plus que l'homme de péché, c'est la papauté. Alors que nos pionniers le disaient ouvertement. Vous savez, ces croyances-là apparaissaient dans un ouvrage qu'on appelait « The Year's Book », c'est-à-dire l'ouvrage de l'année, en fait. Et cet ouvrage était ce que l'on pourrait qualifier limite d'annuaire adventiste, où vous aviez tous les gens qui étaient en poste dans l'église, etc., leurs fonctions, des adresses, etc., etc., etc. Et jusqu'à présent, ça y est, en fait. Ce livre existe, OK? Et vous avez tous les employés des fédérations, etc., 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 etc. Et dans cet ouvrage étaient incorporées les croyances fondamentales, d'accord? Donc, n'importe qui prenait cet ouvrage pouvait savoir ce que croyaient les adventistes. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez cet ouvrage, ça y est pas. Il faut laisser François tranquille. Il faut laisser le pape tranquille. Il est gentil. Il n'est pas gentil? Il est gentil. Il est gentil. On va le laisser tranquille. Ah, c'est notre ami, on a vu tout à l'heure. Il est l'ami de Bibi Beach. Ah, mais mes amis, il n'était pas l'ami de James White. Et Diot aussi. Ouais. Mais il n'était pas l'ami de James White. Il n'était pas apparemment l'ami d'Oya Smith. Mm-hmm. Et il n'est pas non plus mon ami, mes amis. Vous savez ça? Ce n'est pas mon ami, le pape. Parce que moi, par la grâce de Dieu, j'appartiens à cette église du reste. Cette véritable église adventiste du septième jour de 1889. Parce que je crois que le pape est l'homme de péché. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que nous disons, vous pouvez entrer dans l'église adventiste actuelle, moderne, vous faire baptiser et croire ce que vous voulez concernant l'homme de péché. Eh oui, pas de problème, pas de problème. Puisque dans les principes fondamentaux, on ne dit rien à ce propos. Vous vous rendez compte? Non, 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 mes amis. Non, 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 non. Le point numéro 15. Que les Écritures insistent sur la simplicité et la modestie dans le vêtement comme un signe remarquable de la condition de disciples chez ceux qui professent suivre celui qui fut doux et humble de cœur. Que le port de l'or, des perles et d'habits coûteux ou de toute autre chose ayant pour pur objectif d'orner la personne et d'entretenir l'orgueil du cœur naturel doit être abandonné selon des textes comme 1 Timothée 2, 9 et 10 et 1 Pierre 3, 3 et 4. Voilà quelque chose que Dieu a conduit l'Église du reste. L'Église adventiste du septième jour en 1989 à comprendre. Voilà quelque chose qui a été confirmé point par point et qui était l'une des caractéristiques de leur foi. Mais il semblerait que aujourd'hui, cette caractéristique, eh bien, tend à disparaître. Est-ce que nous reconnaissons aujourd'hui que cela exprime vraiment une volonté de Dieu, de nous voir vivre dans la simplicité, même dans notre apparence, dans la modestie, dans le vêtement? Que Dieu ne souhaite pas que nous soyons parés de toutes sortes d'or, de perles, etc. Mes amis, aujourd'hui, lorsque vous vous promenez un peu et que vous promenez vos yeux dans l'adventisme aujourd'hui, mais le port des bijoux est en train de frapper, mes amis, et de revenir à une allure. Vous savez, j'étais en Martinique et j'étais allé justement imprimer ces principes fondamentaux pour avoir une classe baptismale. D'accord? Et je me suis rendu chez un imprimeur. Et il y avait un jeune homme qui était là. Et la première fois, alors c'était la première fois justement, c'était la première fois. Et je suis resté là durant peut-être plusieurs minutes à attendre qu'il fasse le travail pour moi et tout et tout. Et ce jeune homme était en train de draguer sa collègue et tout. Il avait ses bijoux, enfin, son collier, tout ça, son bracelet et tout et tout. Il était habillé d'une manière pas très convenable non plus. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Et il a participé à l'élaboration de ce document, de l'impression et l'assemblage de ces documents pour moi. Et au moment où il vient pour me les remettre, il me dit, Monsieur, vous êtes adventiste? Je lui dis oui, je suis adventiste et même pasteur adventiste. Il me dit, ah, parce que moi aussi. Je lui dis, ah bon, d'accord. Eh bien, tiens. Et je lui ai pris l'un des documents, l'un des 20 documents qu'il avait imprimé pour moi, et je lui ai donné. Je n'ai pas reconnu que ce garçon était adventiste. Parce qu'il n'était pas, visuellement parlant, un adventiste. N'y avait pas de différence entre lui et quelqu'un d'autre, en fait. Rien que dans sa manière de s'habiller. Point numéro 16. Que les moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes, et ne doivent pas être collectés pour les loteries d'église ou les événements destinés à contribuer à l'amour de l'amusement, pour satisfaire les appétits auxquels le pécheur est enclin, tels que les fêtes foraines, les festivals, les dîners d'huîtres, le thé, les soirées folles, etc. Ce qui est une disgrâce pour l'église qui prétend être du Christ. Que la proportion exigée sur un revenu sous l'ancienne dispensation n'est pas inférieure sous la dispensation évangélique, qu'elle est la même que celle qu'Abraham, dont nous sommes les enfants, si nous sommes du Christ, Galates 3, 29, paya à Melchisédek, type du Christ, lorsqu'il lui donna la dixième partie de tout, Hébreux 7, 1 à 4. La dîme appartient au Seigneur, Lévitique 27, 30, et cette dixième partie du revenu doit être également complétée par des offrandes pour ceux qui en sont capables, afin de soutenir l'Évangile. De Corinthiens 9, 6, Malachie 3, 8 et 10. Ici, on nous parle des moyens destinés à soutenir l'œuvre évangélique. On nous parle de la dîme et des offrandes. Nous avons là un enseignement que Dieu a point par point confirmé à son Église. Un enseignement qui fait partie des caractéristiques de la foi de l'Église du reste, de la véritable Église adventiste du septième jour. Et là-dessus, vous allez me dire que oui, mais il n'y a pas de problème avec ça dans la dénomination. OK? Il est vrai que dans la dénomination, ils pratiquent encore cela. Le système pratique encore cela. Bien que tout le monde n'est pas fidèle. Mais est-ce que vous savez que bien souvent, lorsque des gens acceptent ce message, c'est l'une des premières choses qu'ils cessent de respecter? Lorsque des croyants acceptent, eh bien, d'adorer le seul vrai Dieu et qu'ils sortent de la dénomination et qu'ils se rendent compte que c'est Babylone et que ce n'est plus l'église, ça ne peut pas être l'église du reste, et qu'ils y sortent, bien souvent, Satan arrive à les piéger ici. Si bien que nous avons, eh bien, pu entendre, j'ai pu entendre, pour parler très, très exactement, que apparemment la dîme aurait été inventée par le catholicisme. Y a des gens qui croient ça. Et ils ont une bonne compréhension de Dieu. Ils ne se rendent pas dans les églises de Babylone. Mais ce sont des infidèles qui ne paye pas la dîme, qui ne verse pas à Dieu ce qui est à lui. Parce que il pense que cela est quelque chose de catholique. Mais mes amis, l'Église du reste est au clair là-dessus. L'Église du reste est au clair là-dessus. Que la dîme et les offrandes servent à soutenir l'œuvre évangélique. Et si nous avons l'amour pour Dieu et pour celui des âmes, eh bien, nous devons participer généreusement à l'avancement de l'œuvre. Parce que c'est cela, en fait. Lorsqu'on ne verse pas la dîme, il y a un problème avec l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Parce que des âmes périssent. Des âmes périssent parce qu'elles ne peuvent pas entendre l'Évangile. Et oui, parce que je retiens ce qui est à Dieu et qu'il demande de verser afin que des âmes puissent entendre. Vous savez, il y a une prophétie dans la Bible, Amos, qui nous dit qu'un temps viendra où il y aura une famine spirituelle. Et mes amis, nous contribuons à cette famine spirituelle toutes les fois où nous ne versons pas la dîme, où nous ne rendons pas à Dieu ce qui est à lui. Parce qu'en faisant ça, eh bien, des âmes ne peuvent pas invoquer le Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'elles n'entendent pas parler du Seigneur. Mais pourquoi n'entendent-elles pas parler du Seigneur? Parce qu'il n'y a personne qui prêche. Mais pourquoi y a-t-il personne qui prêche? Parce qu'ils ne sont pas envoyés. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour les envoyer. Et voilà comment des âmes périssent, mes amis. Les véritables adventistes du septième jour, ceux qui se préparent pour le retour de Jésus, mes amis, ils veulent que le Seigneur revienne. Ils doivent hâter son retour. Et pour cela, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que le message avance, mes amis. Mais si nous sommes infidèles là-dessus, le message n'avancera pas. Cela est une caractéristique de l'Église du reste. Oh oui, mes amis. Oh oui. Oh oui. Le point numéro 19. Que l'Esprit de Dieu fut promis en vue de se manifester dans l'Église à travers certains dons, lesquels sont surtout énumérés en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Que ces dons ne sont pas destinés à succéder ou à remplacer la Bible, laquelle est suffisante pour nous rendre sages à salut. Pas plus que la Bible ne peut remplacer le Saint-Esprit. Qu'en précisant les différents canaux de son fonctionnement, cet esprit a simplement fait provision pour son existence et sa présence avec le peuple de Dieu pour la fin des temps, pour faire comprendre la parole qu'il a inspirée, pour convaincre de péché et pour opérer une transformation dans le cœur et la vie. Et que ceux qui refusent à l'esprit sa place et son fonctionnement nient simplement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. De quoi? Les hommes que Dieu a suscités pour restaurer les brèches, que Dieu a conduit point par point dans des princes, dans la vérité, dans une vérité qui ne peut être remise en question. De quoi était-il en train de parler ici? Est-ce que vous avez compris cela? Et là, je voudrais que vous interveniez rapidement pour me dire si vous avez compris cela. C'est peut-être difficile à comprendre. Mais mes amis, ici, on parle des dons spirituels. Oui, tout simplement, des dons spirituels qui sont mentionnés en Éphésiens 4. D'accord? Prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, etc. Et encore d'autres qui sont mentionnés en 1 Corinthiens 12. Ok? Tous les dons spirituels. D'accord? Ce sont des dons de qui? Des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, des dons de Christ, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous le précise. D'accord? Donc, par son esprit, Christ fait des dons. OK? OK. Et ici, notez que on place ces dons comme il le faut, à leur juste position, d'accord? Ce sont, eh bien, des canaux, d'accord? Des canaux par lesquels l'Esprit œuvre. Des canaux par lesquels l'Esprit œuvre, d'accord? Ils ne remplacent pas, ils ne supplantent pas, mais ce sont des canaux, ok? Et ils disent que, en précisant, ok, il dit que cet esprit a simplement fait provision pour son existence et sa présence avec le peuple de Dieu pour la fin des temps. Notez ça, hein? Pour la fin des temps, pour faire comprendre la parole qu'il a inspirée, pour convaincre le péché, pour convaincre de péché et pour opérer une transformation dans le cœur et la vie. Et que ceux qui refusent à l'esprit sa place et son fonctionnement, ni simplement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Là, on voit qu'on fait allusion ici au don de prophétie, en fait, de manière tacite. Ok? Notamment. D'accord? Mais mes amis, il y a d'autres dons qui sont des dons d'enseignement en Éphésiens 4. Ok? Et lorsque nous disons que, ah non, tel don disparaît, ou non, ce don-là, je n'y crois pas, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous disons que non, cette chose-là, ce n'est plus pour maintenant. Ça s'arrête. Au bout d'un moment, c'était valable. Mais à tel moment, ça s'arrête. Est-ce que nous avons une foi qui est similaire à celle de l'Église du reste? Ah non, parce qu'on nous dit, on nous parle de la fin des temps. Et on nous dit que c'est nier cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Toutes les fois où nous rejetons le ministère prophétique, Dylan White, mes amis. Toutes les fois où quelqu'un d'inspiré parle de la part du Seigneur, quelqu'un qui a le don de prophétie, toutes les fois où cela a été fait et que cela est fait, on rejette l'Esprit de Dieu. On rejette l'Esprit de Dieu. Et en fait, on pêche contre l'Esprit. Et cela est vrai pour le don de prophétie. Mes amis, cela est vrai pour tous les dons. Je dis bien pour les dons. Pour les dons. D'accord? La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a des croyants qui ont développé la vision que à partir de certains moments, eh bien, Dieu va arrêter de donner certains dons à l'Église. OK? Et voilà une lecture qui peut refléter leur pensée. Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées, et je les ramènerai à leur pâturage, et elles seront fécondes et multiplieront. Et on s'arrête là. On dit voilà. Voilà. Nous avons eu des pasteurs infidèles, des pasteurs qui n'ont pas, eh bien, fait le travail. Ils ont été corrompus, ils ont volé l'argent. Ils se sont engraissés sous le dos du peuple, etc. Et j'ai vécu tout ça, tu vois. Et moi, je ne crois plus dans ça, je ne crois plus dans ces choses-là. Non. C'est Dieu qui va agir, Dieu lui-même, sans les pasteurs. Il va agir directement et il va supprimer ça. En plus, il le dit, je vais le faire. Il ne va plus utiliser d'hommes. C'est terminé tout ça, c'est terminé. Pourtant, tout texte ôté de son contexte devient prétexte. Parce que si nous continuons au verset 4, il dit, après avoir dit « je », il nous dit comment il va agir. « Je » nous dit comment il va agir. « Je », c'est bien l'Éternel. Donc le « je suis » va nous dire comment il va agir. « J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Lorsque des gens se montrent infidèles, lorsque des bergers se montrent infidèles, est-ce que l'Éternel les retranche de leur position et ne les remplace pas? Est-ce qu'il laisse son troupeau sans berger? Non! Il les retranche et il met des bergers qui feront le travail, mes amis. Et c'est ce que la Bible enseigne et c'est ce que nos pionniers croyaient. Car l'Esprit se manifeste à travers des dons jusqu'à la fin des temps, mes amis. Si vous lisez bien Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit pour quelle raison ces dons sont donnés? Afin que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Or, l'Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, des gens se détourneront de la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc, pour que les gens soient affermis, il faut que Dieu rassemble son troupeau, il faut que Dieu s'affermisse le troupeau. Et comment il va faire cela? Eh bien, pas à travers tous les dons qu'il a pourvus à l'Église. Dons de prophétie, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc., 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 etc. Tous les dons, mes amis, c'est lui qui le fera, par son esprit. Voilà, point numéro 21. Que le temps de la purification du sanctuaire, voire le point 10, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, Apocalypse 14, 8 et 10, est le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants lorsqu'arrive la fin du temps de probation pour déterminer qui d'entre les myriades dormants à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, point qui doivent être déterminés avant l'apparition du Seigneur. Ici, Dieu a conduit l'Église du reste, la véritable Église adventiste du septième jour, à la compréhension selon laquelle, qu'il y a d'abord le jugement des morts, c'est-à-dire que le jugement investigatif se réfère d'abord aux morts et il passe ensuite aux vivants. Mais notez le moment, lorsqu'arrive la fin du temps de probation. Lorsqu'arrive la fin du temps de probation, d'accord? Et mes amis, il y a des gens aujourd'hui qui disent que le jugement des vivants a déjà commencé. Alors que le temps de probation, lui, continue toujours. Et ces mêmes personnes sont celles qui croient que les 2520 sont une période de temps prophétique et que c'est même la plus grande période de temps prophétique. Mais ce n'est pas ce que Dieu a révélé à l'Église du reste, au véritable adventiste du septième jour. Cela n'était pas une caractéristique de leur foi. Cela ne faisait pas partie de leurs piliers, les piliers de leur foi, des vérités confirmées de manière incontestable. Non, mes amis. Le jugement des vivants. Et lorsque vient la fin du temps de probation, mes amis. Rappelez-vous que nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du septième jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point par point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré, dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Mes amis, voici les caractéristiques de l'Église du reste de Dieu. Voici ce qu'est un véritable adventiste du septième jour. Dieu nous pose la question cet après-midi. Qui sommes-nous? Et où sommes-nous? À quelle église adventiste? Dans quelle église adventiste nous trouvons-nous? Est-ce une église théologiquement modifiée? Tout comme des fruits et des légumes génétiquement modifiés? Est-ce une église théologiquement modifiée? Ou une église adventiste, eh bien, qui a toutes les créances du ciel? Une église qui garde les commandements de Dieu, en commençant par le premier commandement. Une église qui garde ce qui a été confirmé depuis 1855 à 1905. Une église qui a des vérités qui ont été obtenues point par point, par l'étude, la prière, et confirmée par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mes amis, quelle que soit votre réponse en cet après-midi, sachez que les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils seront maintenus comme Dieu l'a déclaré dans sa parole. Ça veut dire qu'avec ou sans nous, mes amis, l'Église du reste dont on nous parle ici va maintenir ses vérités. Que vous décidiez de continuer à croire en la Trinité ou pas, que vous décidiez de croire dans les 2520 ou pas, que vous décidiez de refuser de payer la dîme ou pas, que vous décidiez de faire tout ce que vous voulez par rapport à ce que nous avons vu. Mes amis, cela sera maintenu. Parce que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a suscité cela. Et avec ou sans nous, ce message va avancer. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. Mes amis, voulons-nous nous cramponner avec fermeté à ces principes fondamentaux? Voulons-nous faire partie du véritable reste de Dieu? Voulons-nous y rester, y demeurer, si c'est déjà le cas? Alors nous devons nous cramponner, mes amis. Nous devons comprendre ces choses, étudier ces choses, approfondir ces choses. Car Satan envoie, comme il a envoyé par le passé, toutes sortes d'hérésies de manière à ébranler la foi de l'Église du reste. Mes amis, nous avons là une plateforme solide qui a été approuvée. Une plateforme qui a pour architecte Dieu lui-même. Un édifice qui a pour architecte Dieu lui-même. Et lorsque viendra le temps de test, nous serons trouvés forts, mes amis. Nous aurons eu une expérience solide. Combien d'entre nous voulons de cette expérience?
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.